La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans une danse des mots théâtrale aujourd'hui, théâtrale et dramatique dans tous les sens du terme, puisque le théâtre c'est dramatique, mais le théâtre parfois ça touche au drame, c'est le cas de Sang Négrier, une pièce pour un personnage qui se joue actuellement à Paris au théâtre La Croisée des Chemins dans le 15e arrondissement, mais qui reprendra plus tard, notamment à Avignon. À Paris, on a jusqu'au 19 avril pour le voir. Un personnage en scène, donc Bruno Bernardin, avec un texte de Laurent Godet, et Bruno Bernardin est venu pour nous en parler. Bonjour Bruno Bernardin.
Bonjour.
Alors, je disais que c'était un texte dramatique parce que c'est vrai qu'on en ressort, on a des frissons quand même. Sang Négrier, c'est déjà un titre qui n'a pas peur du drame, qui n'a pas peur du tragique, qui n'a pas peur du sang.
Oui, et c'est très particulier de faire aussi de ce spectacle ou de faire une promotion de ce spectacle avec un terme comme négrier dans le titre.
Mais je trouve que c'est bien aussi de temps en temps de pas avoir peur des mots. Je veux dire, c'est pas les mots qui sont à mettre en cause, ce sont les choses que représentent ces mots. Et quand on parle de sang négrier, quand on parle de bateau négrier, quand on parle de traite négrière, au moins on sait de quoi on parle. Il n'y a pas d'euphémisme un peu douteux qui vient mettre un filtre entre une réalité atroce et ce qu'on en pense trois siècles après.
Ah oui, là on est dans le vif du sujet. Et c'est, moi, pour une toute petite anecdote, la première répétition que nous avons pu faire avec ma metteuse en scène, Radija Elmadi, nous l'avons fait dans un théâtre où j'ai dit ces premiers mots où je dois dire nègre à peu près toutes les deux minutes. Et nous avons dit ces premiers mots devant une personne donc africaine qui venait faire le ménage, et on ne pouvait pas être plus en fait au cœur du sens de notre spectacle et de notre travail à ce moment-là. Voilà, parce que même si la traite négrière est officiellement terminée, elle existe sous d'autres formes, dans d'autres pays d'autres manières possible et imaginable.
Et de toute façon, le mot nègre, même s'il est tabou aujourd'hui, si on n'ose pas l'employer, parce qu'en effet, il est très violent et il est très insultant, ça a été le mot, et le mot unique, pendant très longtemps. Et ce texte magnifique de Laurent Godet, à quelle période se situe-t-il, Bruno Bernardin ?
Eh bien, il se situe lors de la traite, lors de la traite négrière. Il se situe à Saint-Malo, donc Saint-Malo, le plus fort de cette traite était entre 1700, ça a commencé entre les années 1720 jusqu'à 1820, au moment où Napoléon a aboli cette chose-là, même si elle a un peu continué en sous-main. Donc nous sommes dans cette période-là. Nous arrivons à Saint-Malo. L'histoire part de l'île de Gorée vers le Sénégal, où un second de navire que j'interprète doit remplacer au pied levé le commandant de bord du bateau, tout simplement parce qu'il meurt en pleine traversée. Je dois pas trop en dire, c'est ça?
Oui, parce qu'on va vous écouter tel que à la sauvette, on a pu vous enregistrer lors d'un dernier spectacle auquel toute l'équipe de la danse des mots assistait.
Tout avait commencé à Gorée, au large du Sénégal. Lorsque le capitaine Bressac eut la mauvaise idée de mourir, nous y mouillons depuis 12 jours, le temps d'acheter le bois d'ébène et de le charger à bord. Nous nous apprêtions à partir pour l'Amérique, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant, mais Bressac tomba malade. Je pris provisoirement les commandes. Les choses étaient simples, il suffisait de superviser les dernières manœuvres de chargement. Pendant 3 jours, il ne quitta plus sa cabine. On parla d'abord d'une légère indisposition, puis de fièvre, puis personne ne parla plus de rien. Le médecin que nous appelâmes monta à bord d'un air las et ne quitta plus la cabine. Lorsqu'il en ressortit le soir du 3e jour, ce fut pour nous annoncer la mort du capitaine. La fièvre l'avait bouffé de la tête aux pieds. Il ne restait plus qu'un corps maigre dans des draps salis de sueur. Bressac mort. C'était à moi qu'il revenait d'assumer le commandement. Il ne fallait pas perdre trop de temps, achever le chargement du navire le plus vite possible et quitter l'Afrique pour laisser derrière nous la fièvre accrochée aux côtes, comme la brume au rocher les jours de touffeur. Aujourd'hui, je m'étonne de ne pas avoir senti que le malheur rôdait autour de nous, que c'était lui qui provoquait ces aléas, que c'était lui encore qui suscitait nos décisions. Nous aurions dû nous méfier de nous-mêmes. Et nous n'en fîmes rien.
La trompette de Jacques Courcil, reconnaissable entre toutes, avec cette sonorité particulière, à la fois duvetée, ouateuse et en même temps un tremblé qu'il a beaucoup travaillé. Un morceau qui s'appelle Gorée, et en effet, Bruno Bernardin, le texte que vous interprétez fait commencer l'histoire à Gorée, puisque ce texte vient, on en reparlera tout à l'heure, d'un recueil de nouvelles de Laurent Godet. Alors, on vient de voir comment ce texte est beau parce que il évoque un peu, sans cliché d'ailleurs, la langue du XVIIIe siècle. Nous y mouillions. Vous faites ressortir l'imparfait avec ce i en plus des deux l. Et puis ce terme de bois d'ébène. Alors moi je suis content que la pièce s'appelle Sans négrier. Elle se situe à une époque où en Occident on avait quand même très très peu de scrupules par rapport à ce type de trafic. Il y en avait quand même un petit peu puisqu'on parlait de bois d'ébène et que là. C'est un nom de code.
Oui. Le bois d'ébène, ce sont les hommes et les femmes qu'on transportait, et pour ne pas dire des esclaves, on parlait de bois d'ébène.
Oui, et pour ne pas dire des nègres. Oui. En effet, puisque c'était le mot courant, la plupart du temps chargé d'un écho péjoratif, mais pas toujours, puisque Montesquieu, qui avec un courage intellectuel absolument formidable, puisque c'est quand même l'un des seuls au début du XVIIIe siècle à condamner justement l'esclavage, mais lui aussi il emploie ce terme, parce qu'il n'y en a pas d'autre.
Oui, très certainement, vous m'apprenez beaucoup de choses. Je suis très ravi de vous entendre également. Alors, vous me faites aller au-delà de mon spectacle.
Comment est-ce que vous avez travaillé donc sur ce texte de la nouvelle de Laurent Godet, qui vient d'un recueil qui le dépasse, qui s'appelle La Nuit Mozambique?
Eh bien, en fait, je travaille avec ma metteur en scène, Radija Elmadi, qui est une formidable comédienne et directrice d'acteurs et conteuse elle-même. On travaille ensemble depuis donc une vingtaine d'années. Je lui ai demandé de me mettre en scène à nouveau. Et elle m'a proposé ce texte donc de Laurent Godet, que je connaissais un petit peu. Et en quelques minutes, la décision était prise. Nous avons écrit à Laurent Godet pour qu'il nous accorde les droits. Et Radija lui a écrit une très très belle lettre du pourquoi est-ce qu'elle voulait monter cette pièce-là, due à ses origines marocaines et aussi à la présence de l'esclavage au Maroc. Et par rapport aussi à la folie de cet homme qui a un acte on parlera très certainement de ce qu'il a passé après, mais elle est aussi très empreinte de ce qui a pu se passer en Algérie et des massacres et de ce que,
oui,
comment
on
les
parle
hommes
d'esclavage,
ont pu,
c'est vrai qu'on le dit peu, mais qu'on sait bien que sinon au Maroc, peut-être un petit peu au sud de Maroc et en particulier en Mauritanie, il y a encore des pratiques qui sont largement, alors il n'y a pas la traite peut-être, mais l'esclavage n'est pas totalement aboli dans certaines parties du monde. monde.
Oui, puis de toute façon, à partir du moment où quelqu'un travaille pour une autre personne sans salaire, il s'est présent
sans
de
limite,
toute façon.
Sans règles, sans contrat,
voilà.
Quoi.
Et ça ouais. existe encore. Ouais. On nous a posé la question, pourquoi monter ce spectacle maintenant? C'était alors que l'histoire est passée, et on pense que c'est très important déjà par rapport à un devoir de mémoire, et d'autre part, pour aussi prendre conscience de comment on peut agir sur les autres, et comment le pouvoir, ou même de toute façon la personne qui est différente, ce qu'elle peut soulever en nous, voilà, c'est là où le... où notre texte va, notre adaptation va, et le fait que nous montons ce spectacle va au-delà, en fait, aussi de raconter une période historique. Oui. Ce que fait Laurent Godet également.
On vient de souligner justement que vous avez pris un texte de Laurent Godet. C'est une nouvelle qui vient de ce recueil dans La Nuit Mozambique. Vous dites l'intégralité de la nouvelle ou il y a un travail sur le texte? Est-ce qu'il y a des coupes? Est-ce qu'il y a une restructuration?
Non, tout est dit du premier mot au dernier.
Et Laurent donc, ça calibrait bien. Ça allait bien, parce que ça dure combien de temps? 1h10,
à peu près. Oui.
Et le texte, en le lisant, vous êtes dit, c'est le bon format. Parce que si le texte dure 3h, c'est pas possible pour une personne seule. Si le texte dure 30 minutes, ça fait un peu court. Il faut que ça fasse une durée de spectacle standard.
En fait, à la lecture, le texte dure à peu près 50 minutes. Il faut savoir que moi, je me suis en adresse publique, donc je raconte cette histoire tout le long du spectacle. Donc, de toute façon, je suis en interaction avec le public. Donc, il y a aussi beaucoup de moments de souffle et de réception de ce que je peux dire. Donc, il n'y avait pas obligatoirement de calibrage au départ. On pensait faire un spectacle d'une heure. Il dure un tout petit peu plus longtemps. Voilà, selon, je vous dis, la respiration des spectateurs. Et donc, rien n'a été changé. Laurent Godet, il vient de l'écriture théâtrale et c'est très emprunt de toute façon ce texte.
Ah oui, vous aviez l'impression, même si c'est une nouvelle, que le texte se prêtait facilement à une oralisation.
Oui, tout à fait. Oui. C'est,
et ça se sent tout de suite quand on est comédien?
C'est on a travaillé avec Radija au départ sur la forme de conte, mais l'incarnation est très très vite arrivée, et le fait en fait nous aussi ce personnage raconte sa folie, et c'est là où Laurent Godet l'écrit très très bien, c'est-à-dire que par un système de répétition, par un système de flashback, par des idées qui reviennent et qui repartent, raconter ce qui se passe quelques années en avant, puis revenir sur un temps présent pour donner son analyse. Et tout est... En fait, c'est une grande confidence. C'est une grande confidence. Donc, ça pouvait très bien être théâtralisé.
Eh ben, je vous propose d'en écouter un deuxième extrait.
Les nègres, eux, sans que l'on sache comment, avaient réussi à ouvrir la trappe de la cale et s'étaient précipités sur le pont. Quelques marins de navires voisins, voyant cela, s'étaient immédiatement chargés de les empêcher d'aller plus loin. Un désordre confus s'était ensuivi, des coups avaient été échangés, on cria, on frappa. Les nègres, encerclés de toutes parts, repoussés sur le pont du navire, demeurent fous et tentèrent de sauter sur le quai comme des hommes qui sautent dans le vide. C'est à cet instant que nous arrivâmes. Juste à temps pour éviter qu'ils ne parviennent à se répandre dans le port comme une volée de sauterelles.
Captain, Captain, oh, you better catch a man. Oh, Captain, Captain, you better catch a man. Some gone to the bush, yeah. Oh Lord, and some gone in. Whoa, buddy, buddy. Whoa, the captain did for me. Whoa, see what the captain done for me. Buddy. Oh, boy, how you know? Oh, I know. Got the captain and told me so.
Un blues qui fait vraisemblablement référence à une situation de prison, parce que quand on dit captain, captain, ça veut dire le captain, c'est le gardien en chef. Maintenant, des conditions de vie à la prison, conditions de vie à la plantation, il y avait de la différence, mais il n'y en avait pas tant que ça. Puis dans les prisons américaines, dans le sud des États-Unis, à l'époque de l'esclavage et après, on travaillait et on travaillait dur. Alors, juste avant cela, Bruno Bernardin, on a entendu un deuxième extrait de la pièce avec les captifs qui s'enfuient. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, parce que l'extrait précédent, oui. On quitte Gorée, le capitaine meurt, donc vous, qui incarnez donc le second, vous n'êtes pas vraiment prêt à prendre ce commandement, mais il vous échoit, vous devenez le capitaine, et vous arrivez à Saint-Malo. Mais qu'est-ce que ce bateau qui devrait aller aux États-Unis vient faire à Saint-Malo?
Eh bien, en fait, ce second, là, décide de ramener le corps du commandant à sa veuve qui habite à Saint-Malo.
Et contrairement aux usages maritimes, parce qu'en général, quand il y a un marin qui décède, fût-il le capitaine, on le balance à l'eau.
Tout à fait. Et lui, il a déjà... De toute façon, c'est un personnage qui a énormément d'état d'âme tout le long du récit. Et il pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et,
donc il fait un gros détour.
Il fait un gros détour, une erreur qui va... graver voilà toute sa vie se graver dans toute sa vie, et puis ils arrivent pour ramener le corps donc à sa veuve, et là par un hasard malencontreux il y a une émeute. Les nègres s'enfuient du bateau. Ils arrivent à contenir cette émeute, sauf que
il y en a cinq qui s'échappent.
Cinq s'échappent, voilà, dans la ville. Ce qui va entraîner une pulsion de chasse collective de tous les habitants de la ville.
Alors ça donne un climat extrêmement particulier, oui. Parce qu'on a les cinq évadés qui se cachent dans Saint-Malo. Ils sont noirs, oui. Donc on les reconnaît, oui. Et on les reconnaît facilement, et ils se cachent et on ne sait pas où ils sont. Et ça fait une situation incroyablement cinématographique. Vous êtes seul en scène, avec une mise en scène très elliptique, avec très peu de décors. Comment vous vous débrouillez avec ça? Parce que ça évoque en même temps le cinéma à grand spectacle. On voit comment on pourrait faire un beau film avec ça.
Ben c'est le jeu du regard en fait. Radija, elle m'a dirigé pour que je voie toutes les images. Si je ne les vois pas, les spectateurs ne peuvent pas les voir. Et c'est aussi une question de rythme. C'est-à-dire que le travail du texte aussi a été très musical. Et c'est de donner toutes ces que ce soit la géographie, les tensions aussi palpables à l'intérieur de cette nuit de chasse qui va avoir lieu, tout me traverse pour que cela puisse atteindre et toucher les spectateurs.
Donc la pièce est comme rythmée par les hallucinations du personnage qui est sur scène, ses visions. Il voit, il croit voir, il ne voit pas, il est dans les rues et il se dit, il faut absolument rattraper ses captifs.
Oui.
Et on a donc quatre qu'on rattrape.
Oui. Oui, oui,
et qu'on exécute sur le champ.
Voilà. Et le pire, c'est que tuer un de ses esclaves, c'est perdre de l'argent.
Oui, mais c'est très économique. Ça, c'est intéressant aussi.
Mais par rapport à la folie meurtrière de cette nuit, en fait, il préfère tuer plutôt que de perdre de l'argent, quoi. Et c'est assez paradoxal.
Je suis fou aujourd'hui, peut-être. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je me souviens encore d'un temps où j'étais ce que les femmes de chambre appellent avec envie un gaillard. La tête bien posée, l'esprit clair, les mains sûres, le corps vigoureux. Un gaillard qui balayait du revers de la main les coups pour moi de femme.
Un troisième extrait de ce Sang négrier qu'on peut voir actuellement au théâtre La Croisée des Chemins. Alors, dites-nous un petit peu ce qui se passe, Bruno Bernardin. 4 esclaves en fuite ont été découverts et tués. Et le cinquième?
Eh bien, le cinquième, ils ne le retrouvent pas. Et le cinquième fait tomber le récit dans un récit fantastique. Car, comme par malédiction, en fait, cet esclave va s'amputer les doigts, un par un, et déposer ses doigts sur les portes de tous les responsables de cette traite négrière. Au départ, l'armateur, puis le chef de la capitainerie, voilà, toutes ces personnes, comme pour symboliser la souffrance de ces esclaves. Et jusque donc les habitants vont retrouver les 10 doigts, ce qui étrangement à un moment donné va les soulager. Ils vont se dire bon bah il y en a 10 qui viennent d'être retrouvés, il n'y en aura plus d'autres, donc la ville reprend vie, le commerce ses droits, comme Laurent Godet l'écrit. Et donc le capitaine, le second, qui est devenu commandant, repart sur la mer, et quelques mois plus tard revient chez lui. Et après une nuit d'alcool, il rentre chez lui et découvre un 11e doigt sur sa porte.
Donc on arrive dans le fantastique, en fait.
On arrive dans le fantastique.
Avec la folie qui va gagner, une folie vraisemblable, qui gagne donc le personnage qu'on voit sur scène.
Oui, tout à fait. Et puis, parce qu'il se dit que ce 11e doigt n'est que pour lui, il n'en avertit personne, il le gardera toute sa vie. Il dit quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir avec Radija, et que nous aimerions bien en discuter avec Laurent Godet. C'est qu'il dit qu'il a honte de ce doigt sur sa porte. Alors que, en dernier lieu, il dit que il ne demande aucune rédemption, qu'il sait qu'il est laid, qu'il aurait refait la même chose, et que l'espèce humaine est comme ça. Mais en fait, il dit, malgré tout, il parle de honte.
Alors on voit la montée de la folie, oui, chez cet homme, qui s'exprime avec toute une gamme de tonalités, puisque de temps en temps on vous entend chuchoter, parfois
on vous entend hurler, souvent on vous voit avec quelques haillons différents selon les scènes, et à un moment vous portez un masque.
Oui, tout à fait.
Alors, quel est le rôle de ce masque, Bruno Bernardin ?
Bien, ce masque qui a été créé spécialement pour le spectacle par Étienne Champion, ce masque, il a pour mission, en fait, de rendre ce personnage multiple, et en fait de raconter... Il est là que pendant la nuit de traque, quand les quatre esclaves sont pourchassés et abattus. Et en fait, il sert à raconter toute la population qui a participé à cette nuit. Et de ne pas faire complètement porter la responsabilité sur cet homme. Cet homme a fait une erreur en voulant ramener le corps du capitaine, mais par contre il devient témoin de tous ces volontaires qui munis de couteaux, de bêches, de pioches, par centaines font une chasse à l'homme prient même pour que cette nuit ne s'achève pas trop vite, parce que ils ont le goût du sang, ils ont le... Et donc, on a voulu le raconter, non pas par le visage de ce personnage, mais par une multiplicité d'autres visages. Voilà, donc c'est le symbole de ce masque.
Bien, merci beaucoup Bruno Bernardin d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous.
Pour nous parler de ce sang négrier qui montre la folie d'une ville, mais qui après ce quadruple meurtre retrouve justement une sorte de normalisation de l'économie, alors que le personnage principal, lui, part dans la folie. Un beau spectacle et qui fait réfléchir, qu'on voit donc au Théâtre de la Croisée des Chemins jusqu'au 19 et ensuite à Avignon. Merci d'avoir été dans